Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Clap sur Europe 1, votre émission cinéma. Comme dit Buzz l'éclair, allons à l'infini et au-delà. Voilà ce que l'on vous propose dans Clap. Nous sommes ensemble pendant une heure et pour démarrer cette émission, nous nous replongerons dans les meilleurs biopics musicaux au cinéma à l'occasion de la sortie d'Elvis. Didier Alouche nous livrera les news made in Hollywood. Et puis mon invité cette semaine est un acteur, humoriste, réalisateur de grand talent. Il viendra nous parler de son nouveau film Irréductible, c'est Jérôme Commander. Enfin, mes deux rangers de l'espace, ou plutôt de la galaxie cinéma, sont là eux aussi, Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Bonjour les garçons.
Vers Laurie et au-delà.
Ah oui, donc les rangers de l'espace, je m'y attendais pas à celle-là. Mais j'aime bien.
Ouais, pas mal, pas mal.
Toujours rêvé de voir Mars.
Ouais, on va pouvoir se la péter un peu, quoi.
Et sinon, à part se la péter, on parle de quoi cette semaine?
Il y a beaucoup de grosses sorties cette semaine. C'est vraiment une semaine très chargée, mais on va notamment parler de Buzz l'éclair, même de El Buen Patron avec Javier Bardem, gros succès en Espagne et gros succès dans nos cœurs.
Et du nouveau film de Michel Leclerc aussi, Les goûts et les couleurs.
Oui, et puis d'Elvis aussi.
Oui, j'ai oublié. Oui, trop de films.
Tout ça, ce sera en dernière partie d'émission. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
I'm all shook up.
Qui veut faire un petit rock avec moi?
Oh là là, que de propositions.
Alors non, je suis désolé, mais alors la danse est l'expression verticale d'un désir horizontal. Il n'est pas question que nous dansions.
All Shook Up d'Elvis Presley, vous l'avez reconnu. Et oui, cette semaine, on va tous chanter et danser au rythme des innombrables tubes d'Elvis à l'occasion de la sortie du biopic sur le King signé Baz Luhrmann. L'occasion, bien sûr, pour nous, dans Clap, de nous replonger dans les meilleurs biopics musicaux au cinéma. Choix, je vous le préviens, totalement arbitraire. Et donc, je commence avec un biopic incontournable pour moi et culte, The Doors d'Oliver Stone en 1991. Film intense sur le destin tragique de ce groupe et surtout de son leader, Jim Morrison, décédé à 27 ans d'une overdose.
Everybody in, the ceremony is about to begin.
Franck, ça te rappelle tes années punk?
Alors le punk et les Doors, excuse-moi Laurie, mais c'est juste deux choses pas très compatibles.
Mais non. Bon, ils étaient quand même un peu... ils étaient rock quand même.
Ils étaient rock. Pour le coup, celui-ci me déplaît pas trop. J'ai une certaine aversion pour les biopics, parce que ça ressemble la plupart du temps à avoir gagné le concours de ressemblance.
On a du mal à préparer cette émission parce qu'il n'aime pas.
Ouais,
il n'aime
pas le monsieur. Parce qu'il dit plein de bêtises, Franck, surtout. Voilà pourquoi on a du mal. Hein.
Bon, il se trouve en l'occurrence que Val Kilmer a gagné le concours de ressemblance là, avec un certain Jim Morrison, dont on célèbre absolument le glamour rock, en oubliant de préciser que c'était un parfait abruti, quoi, mais bon.
Mais voilà. Ça va pas. Voilà.
Victor, oui?
Ben non, mais taper sur John Morrison comme ça, c'est...
mais j'ai le droit, non, monsieur?
Mais enfin, non, mais c'est quand même très
Jim
triste.
Morrison,
il était torturé.
J'ai dit Jim Morrison, en plus c'est Jim
Morrison.
Mais
c'est pas parce qu'on est torturé qu'on a le droit d'ennuyer la planète entière. Attention, il a fait des super trucs, toujours. Ouais, super, machin. Enfin bon...
Bon, en tout cas, The Doors d'Oliver Stone, pour moi c'est culte, et rien que pour la bande-son, évidemment. Autre icône qui a vu sa vie adaptée sur grand écran, c'est bien sûr Gainsbourg, avec Gainsbourg, Vie héroïque, réalisé par Johann Sfar, avec Eric Elmosnino dans le rôle du célèbre chanteur.
Ça va pas?
Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord?
Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom, c'est...
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang.
Barrow.
Leur nom.
Bonnie Parker et James Barrow.
Non, Clyde, pas du
tout. Oh! Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, je chante pas bien.
Mais si.
Mais non. Les chansons des autres, j'y parviens. Mais toi, tu m'intimides.
Magnifique. Victor Bonnefoy, vous êtes fan?
Moi, je suis très très fan de ce film-là, mais parce que déjà, j'aimais beaucoup le style de Johann Sfar en bande dessinée, et voir Johann Sfar partir sur du film live et comment il allait insérer un peu l'univers onirique de sa culture BD à une histoire vraie. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué, parce que c'est pas marqué un film de Johann Sfar, il est marqué un conte de Johann Sfar. Le but, c'est de raconter quand même la vie de Gainsbourg, mais avec quelque chose de, d'ailleurs, quelque chose d'un peu fantastique, avec des reprises de musique, avec notamment Dionysos qui vient reprendre du Gainsbourg à un moment du film. Je trouve ça assez brillant, je trouve ça extrêmement fort. Le film me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est un petit peu même le maléfice du film, c'est que maintenant, à chaque fois que je vois Eric Elmosnino, je vois Gainsbourg.
Complètement, ouais. Je suis complètement d'accord.
C'est très compliqué. Ça lui
colle à la peau.
Mais je crois qu'il y avait eu un sketch blague, je ne sais plus d'où il sort, où tu as Eric Elmosnino qui voulait avoir un rôle dans un film. Où il disait non, mais on n'a pas besoin de Gainsbourg dans ce film. C'est très, très dur, mais il l'a tellement possédé que c'est très, très fort.
En tout cas, il y a une vraie proposition visuelle et ça.
Ah, ça y est, on ne peut pas lui enlever.
Bon, et si je vous fais écouter cette chanson ? Évidemment, c'est Purple Rain.
Mais oui.
Avec Prince, alors il faut expliquer un petit peu parce que c'est pas vraiment un biopic, Franck.
Bah, ça se veut.
Prince dans son propre rôle.
Voilà. Donc ça a au moins eu l'avantage d'avoir le véritable artiste dans son propre rôle. Après, est-ce que c'est véritablement biographique ? Évidemment non. Il y a certains petits détails, etc. Mais ça lui aura surtout permis de rampe de lancement mondial pour sa carrière à venir et que le monde entier puisse enfin comprendre quelle affreuse chose que cet homme soit mort il y a maintenant 6 ans. Et que nous avons eu la chance d'être les contemporains du plus grand artiste musical de la fin du siècle dernier. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde s'en fout, pour les références célébrées des DJ tout pourris.
Donc,
c'était le coup de gueule du jour.
Oh, voilà. Jean-Michel Réac, on va parler de Michael Jackson maintenant, s'il vous plaît.
Tu me parles de Réac, si tu me lances sur le débat Prince Michael Jackson, t'es mal tombé, mon coco. T'as intérêt à être sévèrement munitionné.
Oscar de la meilleure musique en 1985.
Évidemment.
Donc voilà, donc Prince dans le rôle d'un chanteur. Mais c'est pas vraiment sa vie.
Il était plaisant de laisser croire que ça pouvait ressembler à sa vie. Mais encore une fois, l'essentiel est ailleurs. C'est qu'on a pu prendre connaissance à l'échelon planétaire du talent d'un homme extraordinaire.
On a compris, vous êtes fan.
Non.
Et si lui n'a pas repris son rôle au cinéma, il en a en tout cas validé son interprète. Elton John a salué le travail impressionnant de Taron Egerton, qui chante lui-même toutes les chansons du film et qui incarne donc le chanteur dans Rocketman, sorti en 2019. Un film explosif, loufoque, toujours entre fiction et réalité.
Et maintenant, mesdames et messieurs, une étoile montante du rock'n'roll. Elton John.
Il est temps.
1, 2, 3, 4.
Je te garantis que ça va secouer. Alors profitons-en tant qu'on peut.
Quel petit garçon timide tu étais. Regarde-toi maintenant.
Bah, vous avez le droit de chanter et danser, hein, chez vous. Elle est faite pour ça, cette rubrique.
Mais il faut absolument. Rocketman, c'est vraiment très réussi. Il faut le dire. Rocketman, c'est un film de Dexter Fletcher qui, malheureusement, avait fait un autre biopic musical, mais pas vraiment. En fait, il avait repris des mains de Bryan Singer, qui s'était fait dégager de Bohemian Rhapsody. Il avait repris le film derrière et il s'était senti frustré parce qu'il n'avait pas beaucoup de marge. Et puis que Bohemian Rhapsody, c'était un très, 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 très mauvais film. Et donc, du coup, heureusement, arrive Rocketman derrière et là où il peut expérimenter, faire une comédie musicale. Et mais au-delà même, en fait, c'est ça. C'est pas juste un biopic. Il y a une vraie notion de comédie musicale, de truc grandiloquent. On va mettre en scène chacun des morceaux pour avoir justement toute une dimension de cinéma, en fait, de pas juste raconter quelque chose, mais de faire du véritable cinéma autour de ça. Je trouve ça assez brillant ce que fait le film jusqu'à son acte final qui est magnifique, qui va utiliser des vraies fausses images d'archives. C'est non, je trouve ça très, 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 très beau, Rocketman.
Et alors, il y a un autre biopic qui se démarque des autres dans sa conception, c'est forcément I'm Not There, qui retrace la vie de Bob Dylan à travers les époques et différents interprètes, Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger ou encore Ben Whishaw, et même Cate Blanchett, Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle en 2008. Pour ce film, ils incarnent tous le chanteur.
Oui, tout à fait. C'est la proposition intéressante qu'a fait Todd Haynes. Todd Haynes, qui est un cinéaste homosexuel et qui justement a souvent travaillé sur la question du genre, sur la question de troubler les lignes. Et c'est un peu l'idée là aussi ici d'avoir 7 personnes différentes qui vont interpréter Bob Dylan. On trouble les lignes jusqu'à Cate Blanchett qui interprète une version féminine de ce qui est encore Bob Dylan, parce que Bob Dylan continue de tourner. Il ne s'est jamais arrêté de tourner depuis les années 70.
Mais c'est une option aussi choisie parce que l'homme est inattrapable en fait.
Mais
aussi,
c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi faire un biopic simple quand on peut raconter plein de morceaux de la vie d'un artiste à travers plein de comédiens et de comédiennes différentes. Et c'est toute la magie du cinéma de Todd Haynes. Il faut voir d'autres films qu'il a fait, il faut voir Carole, il faut voir Le Musée des Merveilles, il faut voir plein de choses chez Todd Haynes. C'est un cinéaste toujours passionnant qui expérimente, et c'est ça, je pense que c'est son film le plus expérimental.
Et vous l'aurez compris, donc, les biopics sont au cœur du cinéma et apportent chacun une vision ou un style singulier à la vie de la personnalité choisie. C'est pour ça qu'on aime tant ce genre, enfin nous, Victor et moi, puisque je rappelle, Franck n'aime pas les
non,
biopics.
Arrête de casser l'ambiance.
I'm Not There, c'est super.
I'm Not There, c'est super. Oui, on avait, à l'occasion de la sortie d'Aline aussi, le vrai faux biopic de Valérie Le Mercier sur la vie de Céline Dion, on avait déjà évoqué ce genre. On avait évoqué Bohemian Rhapsody ou encore La Môme. Enfin, il y a énormément de films, forcément. Il y en a un tout de même qu'il ne faut pas oublier, c'est Walk the Line, qui revient sur la carrière du chanteur country Johnny Cash, interprété à merveille quand même par Joaquin Phoenix.
Ah, tout à fait.
Ouais. C'est rien. Et c'est ça ce que tu es. En noir en plus.
On dirait que vous allez à un enterrement.
Peut-être que c'est ça.
Bonsoir, je suis Johnny Cash.
Et si on essayait de faire revenir June Carter sur scène, peut-être qu'elle chantera avec moi.
Mais la vie de Johnny Cash a quand même été tellement plus désespérée que ce que montre le film. Pour ça, les biopics, c'est toujours hagiographique avec un type qui ressemble au mec. Quoi.
Généralement, c'est un regard, c'est un regard sur une vie.
Tu sais, parfois, il ressemble pas au mec et le film est nul et ça donne Bohemian Rhapsody.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody.
Battons-nous!
Bon, en attendant, vous allez pouvoir découvrir au cinéma un biopic de qualité. On en reparlera, Victor, en fin d'émission. C'est Elvis de Baz Luhrmann.
Ça va être super.
Et il y en a un qui mériterait d'avoir son propre film tellement il a des anecdotes et il brille chaque semaine. C'est Didier Allouche. Voici son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Tiens, et si on parlait série ? C'est que je reviens du Festival de télévision de Monte-Carlo, 61e édition. 5 jours d'invités, 2 soirées de gala, 2 projections et de réflexion pour dresser un état des lieux de la série télé aujourd'hui. Un état des lieux qui aboutit à un bilan déjà établi depuis longtemps à Hollywood, la frontière entre télévision et cinéma n'est plus seulement floue, elle n'existe quasiment plus. Il suffisait de voir le programme du festival pour s'en convaincre. À l'affiche, Terminal List, une série diffusée sur Prime avec l'une des plus grandes stars internationales du moment, Chris Pratt. Oui, celui de Jurassic World et des Gardiens de la Galaxie. Une série mise en scène par un maître du cinéma d'action, Antoine Fuqua. Et il y avait aussi l'un des grands noms du cinéma français, Jean Reno, en vedette de 2 séries là-bas. L'une espagnole, Une Affaire Privée. Et une française, Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, adaptation du livre de Marc Lévy, bientôt sur Canal Plus Série et sur MyCanal. Sans parler d'une autre série que j'ai adorée, The Offer, une série qui brouille encore plus les lignes puisqu'elle raconte en 10 épisodes le making-of d'un film légendaire, Le Parrain. Une passionnante saga qui nous replongeait dans une cinéphilie commune à tous. Nous avons tous vu Le Parrain au moins une fois et pour beaucoup d'entre nous une bonne vingtaine de fois. Alors, se plonger dans ces secrets de fabrication pendant 10 heures de télé de haute volée est un plaisir immense. Sans parler de concurrence, c'est un autre sujet, la série télé devient donc complice du cinéma. Les carrières de stars balancent entre petit et grand écran, entre salles de cinéma et programmes de plateformes de streaming. On en vient même donc à un moment où le cinéma est inspirateur de séries. Et vice-versa, puisqu'il y a quelques mois, Aaron Sorkin racontait le destin de la star de sitcom Lucille Ball dans Being the Ricardos avec Nicole Kidman et Javier Bardem. La pop culture adore croiser ses sources. Ce qu'il s'est passé au dernier festival de télévision de Monte-Carlo en est la parfaite illustration.
Merci beaucoup Didier, à la semaine prochaine. D'ailleurs, Didier sera vraiment en studio avec nous la semaine prochaine, puisque d'habitude, voilà, c'est notre correspondant à Los Angeles. Mais là, il vient en France.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et cette semaine, on va parler de la comédie Irréductible, grand prix du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Un film de et avec Jérôme Commandeur, qui est mon invité cette semaine. Bonjour Jérôme.
Pardon, je réglais mon siège.
Ça, le petit bruit qu'on a entendu.
Le petit chlou, c'était mon siège que je réglais.
Ça va, vous êtes confort ?
Très bien, très bien. Bon. Je suis dans un transat.
Parfait. Alors, le film sort le 29 juin. Notez bien cette date dans Irréductible, cher Jérôme. Vous incarnez Vincent Pelletier, un très paisible fonctionnaire qui, suite à des mesures gouvernementales, va être encouragé au départ. Seulement voilà, Vincent est un irréductible et il va tout faire pour ne pas démissionner, même si le personnage de Pascal Arbillot lui fait les pires vacheries, on peut le dire. Elle l'affecte aux quatre coins du monde.
C'est exactement ça. C'est une réforme comme il y en a eu malheureusement trop souvent, où on dit aux gens, bon, bah, allez, ça faire, mais oui, mais ils vont faire quoi? Oh, bah, c'est pas grave, ils ont qu'à se démerder. Ça a causé beaucoup de mécontentement, d'ailleurs, tout ça dans ce pays, à juste titre.
Bien sûr.
Et en fait, lui, il dit, je reste. Et donc, la fille à Bercy lui dit, mais c'est jamais arrivé, mon petit monsieur, vous prenez votre chèque et vous partez. Non, non, mais vous avez pas compris. Bon, alors, elle le mute dans les coins les plus dégueulasses pour le faire sortir de l'administration. Et comme il tient, elle joue son joker et elle le mute au Groenland pour qu'il protège les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. Et ce qui démarre le film, un journaliste m'a dit ça, j'ai beaucoup aimé la formule, ça démarre comme une blague de Coluche et ça finit en film de Philippe de Broca.
Ah, c'est vrai.
Voilà, c'est-à-dire que ça démarre avec effectivement...
Et il y a un peu d'Indiana Jones au milieu.
Ouais. Ça démarre avec des petits trucs un peu potage sur les fonctionnaires, ce que j'allais dire, j'avoue, bien facilement. Et après, ça continue dans plein de pays du monde.
Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout.
Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner. Et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt.
Oh, tiens bon, Vincent, tiens bon.
On voit où cette fois-ci?
Alors, il a une mésaventure quand même au Groenland. Il y a un rapprochement avec un ours. Si vous voyez de quoi je parle.
Ben oui, parce que en fait, la scientifique avec laquelle il va être muté, dont il doit s'occuper, enfin la protéger.
Qui est jouée par Laetitia Doche.
La comédienne Laetitia Doche, qui est formidable. Et ben, à un moment, elle est obligée de faire un prélèvement de semences. Voilà, nous sommes sur une radio familiale.
Le samedi à 14h.
Le samedi, voilà, les gens digèrent.
Un moment de forte intimité avec un ours.
Mais qu'on ne voit pas.
Non,
vraiment.
On ne le voit pas à l'écran.
J'insiste, s'il y a des parents qui écoutent, vous pouvez emmener les enfants.
Et les ours n'ont pas souffert.
Demande-lui.
Ah, donc vous l'avez fait pour de vrai quand même si on ne le voit pas.
Non, mais c'est du cinéma, Laurie.
Oui, il faut garder la magie. Vous avez raison.
Je m'égare,
excusez-moi. C'est votre deuxième long métrage, Jérôme, en tant que réalisateur. Après Ma famille t'adore déjà, c'est le remake d'un film italien, Covado. Comment est-ce qu'il est né ce projet?
En fait, c'est la production, SND, émet cette film, les deux coproducteurs, français et italien justement, qui m'ont envoyé ce lien. Et j'ai adoré le film, j'ai trouvé que la trajectoire du héros était très belle, parce qu'en fait, d'abord elle est belle et puis elle résonne avec aujourd'hui, parce que c'est une histoire de désobéissance. Mais c'est vrai que c'est un mot, lui aussi, qui revient souvent dans l'actu, dans la bouche de beaucoup. Et en fait, c'est en disant non qu'il va s'ouvrir, rencontrer des peuples, des usages, une nouvelle femme, des nouveaux beaux enfants, un nouveau job. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une philosophie... extrêmement joli et original. Après, il a fallu le franciser et j'ai à peu près créé un tiers du film.
Et l'adapter complètement. Par exemple, vous parlez des Parisiens dans une formule très, très sympa, hein, égoïste, impoli, arrogant.
Oui, c'est parce qu'on comprendra pourquoi en voyant le film, mais il est en Équateur et le chef de la tribu lui dit qu'il n'aime pas les Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis, sales et arrogants. Et mon personnage répond non, toute petite partie des Blancs qu'on appelle les Parisiens. Hein, c'est bon. Mais effectivement, dans le film italien, c'était les Milanais. Mais ça, sauf que ça, c'est très intéressant d'ailleurs. C'était le cas toutes les 30 secondes. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est ancré culturellement dans notre pays. C'est-à-dire que dès qu'on dit on donne un paysage, une référence, un fait divers, je ne sais pas moi, la Coupe du Monde, nous, on n'a pas besoin d'expliquer. Mais en fait, quand on regarde ça de l'étranger, on se dit, oh là là, mais là, il y a des centaines de références à changer dans le film.
Il ne fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont égoïstes, impolis et arrogants.
C'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs, hein, qu'on appelle les Parisiens.
Et alors, on disait, hein, votre personnage, il a une très belle trajectoire dans ce film, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que le film, finalement, il y a un peu de tout. C'est-à-dire que c'est une comédie romantique, mais c'est aussi un film engagé, c'est aussi un film qui parle du climat, c'est aussi un film qui parle du déclassement, c'est aussi un film qui parle de la société, avec beaucoup de bienveillance.
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu pareil pour les one-man. D'ailleurs, quand vous revenez tous les 5 ans en one-man show, l'air du temps, moi j'adore cette expression parce que je trouve qu'elle est très juste. Il ne s'agit pas de parler du dernier fait politique. On ne va pas faire un one-man ou un film sur la difficulté à composer l'Assemblée. Dans 2 semaines, on parlera d'autre chose. En revanche, ça c'est de l'actu pur. En revanche, l'air du temps, c'est-à-dire quelque chose qui peut s'étendre sur 6 mois, 1 an, comme un climat, comme une météo, ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que, du coup, dans le film, il y a une réforme venue d'en haut, il y a une petite référence aux migrants, Il y a de la mixité, il y a de la famille recomposée, il y a un portrait de femme qui a fait trois gamins dans trois pays différents, qui demande son avis à personne et qui s'en fout du quand dira-t-on, et que je trouve est un portrait de femme tout à fait moderne.
Le personnage de Pascal Arbillot qui elle-même subit les pressions.
Oui. Il y a Gérard Darmon qui est un ministre au bord du je pense que si le film avait duré 10 minutes de plus, il se prenait un MeToo au cul.
C'est sûr.
Et évidemment, un des premiers personnages du film, c'est le Groenland. On a glissé des petites phrases du type bah, tu sais, ici, il fait 25 degrés et tout le monde s'en fout. Il y a eu des pointes à 28 en Sibérie, on avait vu ça sur Internet. Mais j'aime pas du tout le terme de film à message ou de leçon ou quelle est la morale, des fois on me demande. Je dis non. C'est une comédie légère et si certains veulent y voir un tout petit peu plus, ils peuvent le faire aussi. Voilà, mais chacun fait comme il veut.
Mais c'est vrai. Mais comédie romantique aussi, ça on peut le dire. C'est, la c'est une comédie feel good.
C'est du feel good avec des bisous.
Mmh, on aime bien.
Et avec des... Nous ne sommes pas de bois, Laurie.
Et, c'est vrai. Et avec des guests aussi. Alors des guests de qualité. Donc déjà, il y avait Valérie Le Mercier qui est absolument hilarante.
Sait-elle faire autrement ?
Non, c'est vrai. Gérard Depardieu qui annonce son retour en France.
C'est pas une archive.
Et c'est pas une archive, c'est ce que j'allais dire.
On pose souvent la question. On l'a vraiment, tourné au JT de France 2 pour le film.
Et puis vous le dites beaucoup, ça fait beaucoup rire, hein, forcément. Christian Clavier, un personnage de gauche. Rien que ça dans la même phrase, on aime beaucoup.
Oui. C'était la première fois, je crois. Gérard Darmon, Pascal Arbillot, Malik Bentala. J'aime pas trop le terme de guest, parce que j'ai l'impression, souvent, dans les dîners avec les copains, moi en famille, on me dit « Oh non, ce film-là, ils ont mis trop de gens connus sur l'affiche, c'est parce que le film n'est pas bon. » Il y a souvent un peu ce truc-là.
Des préjugés, encore.
Mais c'est arrivé.
C'est vrai.
Et là, le scénario tient très fort. Voilà. Et il se trouve qu'ensuite... Effectivement, tous ces guests sont venus, faire des petites bulles, des petites partitions au gré du chemin du héros.
Et aussi un générique qui est quand même très original, parce que la musique s'arrête et vous expliquez pendant le générique qu'il n'y avait plus d'argent. C'était une impro ?
Non, c'est comme les plats ratés en cuisine qui finalement sont pas si mauvais qu'on garde. Là, c'est exactement ça, puisque en fait, je suis arrivé au milieu du générique et la musique s'arrête. Et donc, j'étais dans le studio son avec l'ingénieur du son et je dis mais qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit tu demandes à tes musiciens de mettre un peu de. Et puis je dis ça m'embête. Je dis donne-moi un micro et puis je vais donner mon avis sur le tournage. Je vais raconter. Alors. Le hasard fait que comme c'est à la fin du film, il faut que le film fonctionne très fort pour qu'il y ait de la queue en sortant de la salle et pour que les gens l'entendent. Parce que sinon, si les salles sont vides, trois personnes sortent d'une salle, ça se fait très rapidement. Donc du coup, on n'entendra pas mon générique.
Donc restez jusqu'au bout, ça vaut le coup. On aime bien les petits bonus comme ça en fin de séance. Juste pour terminer sur le film, on l'a dit, hein, on suit les mésaventures de ce fonctionnaire, Vincent Pelletier, qui est un irréductible. Et en même temps, il y a beaucoup de bienveillance pour ce métier. Il y a beaucoup de bienveillance pour la fonction publique. Même si on montre aussi qu'il accepte des petits cadeaux sous la table.
Mais j'aime beaucoup que vous le disiez. Ça me fait très plaisir parce que j'aurais peut-être fait, il me semble, autour de plusieurs centaines d'interviews en tout cas. Et à chaque fois, je le rappelle, je le martèle, je les charrie, je l'assume. C'est totalement potage, c'est un boulot de cancre. J'adore dire ça parce que c'est vraiment le couillon dans la classe qui vous envoyait des boulettes de papier et qui vous empêchait d'écouter la prof. C'est vraiment notre travail à nous. Mais à côté de ça, ils sont profondément essentiels. Ils font fonctionner le collectif. Ils nous exfiltrent d'Ukraine. Ils réparent les pylônes quand il y a des catastrophes naturelles. Ils retirent la neige à Noël quand on va aller voir nos familles sur la route. Et au premier rang desquels, évidemment, nos héros, les soignants et les profs. Enfin, on pourrait continuer à tous les citer. Donc moi, c'est tout ce que j'aime dans l'humour. C'est on charrie. Et en même temps, on tire un coup de chapeau et on dit merci.
Et on charrie parce qu'on les aime, au fond. Si vous aviez été fonctionnaire, vous auriez fait quoi ?
Je pense prof, parce qu'il y a un peu du comédien dans le métier de prof.
Ça reste théâtral. Doit vous offrir un cadeau, un pot de vin, comme on dit, on vous offre quoi ?
Un jambon.
Ah oui. Là, remarque, il est 14h30, c'est vrai qu'on a un peu faim.
Oui,
la prochaine fois que je vous reçois, je mets un bon jambon.
Oui, et puis le week-end, on décale un peu les horaires.
Voilà, on est bien d'accord. Vous restez à mes côtés, Jérôme Commandant, on va parler des films de votre vie.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
C C'est le retour de Clap. Je suis toujours en compagnie de Jérôme Commandeur qui sera à l'affiche d'Irréductible le 29 juin au cinéma. Jérôme, si je vous demande votre meilleur souvenir de cinéma.
Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un souvenir qui m'a marqué très très fort. J'avais 18 ans, puis avec une copine, on est allé voir Priscilla, folle du désert, et, sur les Champs-Élysées. Et à un moment, le héros traverse le désert australien sur un air d'opéra avec une espèce de cape qui fait deux fois la longueur du bus. Ah ben voilà. Et c'est des espèces d'images qui vous saisissent. Et c'est l'histoire d'une tournée qui se passe mal.
Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Un road movie en tourbus, comme on dit. Et c'est marrant parce que je trouve que même dans cette époque d'aujourd'hui où on a, où il y a profusion d'images, on en parlait, je pense qu'un gamin de 15, 16, 18 ans, quand il rentre dans une salle de cinéma et qu'il voit quelque chose qui le saisit, il s'en souviendra toute sa vie.
C'est vrai.
Je m'en souviens encore.
Complètement. Et c'est la vocation du cinéma. Et c'est pour ça que c'est aussi important de voir des films en salle.
Oui.
Parce que l'émotion qu'on a dans une salle de cinéma, sur grand écran, on l'a pas ailleurs. Ce
sera jamais la même que sur un iPhone où on regarde une plateforme dans un TGV. Ouais. Et même si l'image et la qualité de ce qu'on y voit est magnifique, souvent, il y a des séries magnifiques. Mais ça reste un truc, ça m'a saisi. Quoi. Et on s'est regardé avec ma copine. On était vraiment tétanisés. Quoi.
La séance de cinéma la plus dingue,
c'est les visiteurs. Je suis tellement fier que Christian Clavier soit dans mon film. Et c'est vrai que je c'est pareil, c'est comme Toussia Folluzère, je m'en souviens mais par cœur. J'étais avec mon père et on est allé voir le film tous les deux parce que tout le monde en parlait, c'était un événement fou.
Et vous aviez quel âge ?
J'avais 17 ans. Et à un moment, les gens hurlaient tellement de rire que mon père s'arrête de rire et me regarde. Genre, est-ce que tu vois ce que je vois ? C'est-à-dire qu'on regardait plus l'écran.
C'était OVNI pour l'époque.
Voilà, on regardait autour de nous. Et je peux vous dire que un niveau de rire pareil dans un film, je crois que c'est rarement arrivé.
C'est OK !
Voilà. Pas mieux.
Pas mieux.
Christian Clavier, effectivement, on le rappelle, qui joue dans Irréductible. C'est le rôle d'un syndicaliste de gauche qui vous conseille.
Un syndicaliste du rail, tout à fait, soyez précise.
Oui, pardon.
C'est qui s'appelle Michel Gougna.
Voilà, ça ne s'invente pas.
Non, et qui a une petite boucle d'oreille, vous verrez, une doudoune sans manche, une petite casquette, et il a emprunté sa boucle d'oreille à Bernard Lavilliers, qu'il lui a rendu après, évidemment.
Le film Jérôme Commandeur que vous avez honte d'aimer.
C'est des grands débats avec des copains un peu pompettes. Nous sommes pompettes avec modération, très important.
Toujours, c'est important toujours. De le rappeler.
Mais en fait, je trouve que tout a une fonction. Donc, j'aime pas trop ce truc de honte. Je trouve que tout a une fonction. Tout s'inscrit dans une époque. Regardez, il y a un bouquin magnifique sur Michel Berger, d'Yves Bigot en ce moment, qui raconte qu'il était complètement malmené par la critique. Louis de Funès également, qui s'est fait malmener, où c'était des choses comme ça un peu au rabais. Et 30 ou 40 ans après, elles deviennent cultes. Donc, j'ai mis les Charlots font l'Espagne.
Vous auriez pu mettre mon curé chez les nudistes.
Elle était aussi chez les ploucs, je crois.
Ouais. C'est toute une époque, effectivement,
c'est
avec
une
des
époque.
Titres invraisemblables et des comédies.
Oui, c'est ça. C'est des espèces de nanars un peu légers, ouais. Dont Michel Galamo et Dio César qui les faisaient pour, je crois, payer les impôts ou payer sa soupe, ou je sais pas quoi.
Le film que vous revoyez sans cesse.
Alors, bizarrement, j'aime peu faire ça. Je sais pas pourquoi.
Vous voulez rester sur la première impression.
Oui, j'adore me dire « Ah, je l'ai vu qu'une fois ». Je trouve qu'il y a ceux que j'aime beaucoup. Et il y en a un qui est un peu mon film de chevet. C'est « Man on the Moon » de Milos Forman. C'est Jim Carrey. Revoyez-le.
C'est triste.
Oui, c'est assez triste. C'est très beau à la fois. C'est Andy Kaufman qui était un mélange entre... qu'est-ce que je pourrais dire, Philippe Lachaud, Cyril Hanouna, Michael Youn, qui était dans la potacherie la plus absolue, qui faisait des...
Trublion.
Voilà, c'est ça, un trublion de la télé des années 70. Et en fait, il avait son manager, qui était vraiment son âme damnée, son porte-serviette, quoi, son double. Et à la fin, il y a un passage qui, je crois, est vrai, parce qu'ils se sont un peu éloignés de sa vie, mais là, c'est vrai. Ils étaient tellement habitués à faire des canulars que quand le cercueil de Andy Kaufman, donc c'est le nom de l'humoriste, joué par Jim Carrey, est dans l'église, à la fin le manager vient et toque au cercueil, une fois que tout le monde est sorti, en disant « Bon, allez, c'est bon, tu peux sortir, ils sont tous partis », pensant que c'est encore un énième canular et n'arrivant pas à croire et à accepter la mort de son ami. Et évidemment que quand on fait nos métiers et qu'on regarde ça, il y a une petite larme qui coule.
Bien sûr, surtout avec l'interprétation de Jim Carrey et la mise en scène de Milos Forman.
J'ai une mauvaise nature.
Non, t'as une nature compliquée.
Tu connais pas le vrai Kaufman.
Il n'y a pas de vrai Kaufman.
Ah, c'est vrai, j'oubliais.
Et de mémoire, sa femme, c'est Courtney Love, mais ouais, je crois.
Exactement, c'est complètement ça. Votre comédie romantique préférée, Jérôme Commandeur?
Bon, j'ai mis la mienne.
Bah oui, vous avez raison.
Pardon, hein. Excusez-moi si mes chevilles n'arrivent pas à rentrer dans le studio, c'est un peu grosse.
Mais non, vous avez raison. En plus, vous êtes fait plaisir puisque vous êtes amoureux de Laetitia Doche dans le film, qui est formidable, qui a un charme fou, c'est exactement fantaisie naturelle.
Oui, elle est très belle, très fraîche. Pardon, le mot est un peu cru, mais j'adore. Elle est incroyable. Elle amène justement ce truc un petit peu nordique. Alors c'est une mutation pour elle aussi, donc elle n'est pas suédoise, elle est française, mais elle a un truc comme ça de là-bas qui est magnifique.
En revanche, elle a un peu cœur d'artichaut.
Elle est un peu cœur. Elle a fait trois gamins avec que trois mecs différents dans trois pays différents.
Voilà, il faut qu'elle arrête de voyager à un moment. Hein, si vous voulez la garder, il faut
attention,
vous lui enlever son passeport, comme ça vous êtes bon.
Quand elle prend l'avion, c'est mauvais signe.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre?
Bah, on revient à Jim Carrey, Truman Show.
Vous êtes fan de Jim Carrey?
Oui, plutôt cette période-là.
Cette période, bien sûr.
Mais oui, c'est vrai que ce sont des comédiens, je ne sais pas à qui je pourrais le comparer, ce sont des comédiens qui, ils amènent ce qu'ils sont, et en même temps, ils changent un peu l'époque, ils la griffent. Tom Hanks aussi a fait ça avec Forrest Gump. Je trouve que c'est des... Ils passent dans autre chose, sont des icônes. Ouais.
Et ce film était terriblement avant-gardiste puisque ça parlait de la télé-réalité avant même la télé-réalité existe. Quand on y pense, c'est complètement dingue.
C'est fou, ouais.
La fin, le téléspectateur qui zappe, qui passe à autre chose. Enfin, c'est... Il y a des messages très lourds quand même dans Truman Show, qui vient de ressortir au cinéma la semaine dernière. Vous pouvez aller le revoir. Le film que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir?
Oui, c'était Mon grand-père, mais c'était Pain, amour et fantaisie avec Gina Lollobrigida. Je pense qu'on doit être au milieu des années 50. Pas quand je l'ai vu, hein. Je vous rassure.
Sinon, il faudrait me donner le secret.
Ouais, sinon, c'est une très bonne crème.
Ouais.
Non, et je vois mon grand-père, en plus sicilien, donc c'était la figure. Et il était déjà veuf, malheureusement. Ma grand-mère nous avait quittés. Et je suis certain que c'était pour ça. Et je le vois à un moment écraser une larme. Et ça aussi, c'est des émotions de cinéma. C'est pas, on en parlait tout à l'heure avec les visiteurs, c'est pas simplement regarder l'écran. C'est aussi, le cinéma, c'est aussi regarder...
La réaction des proches.
La réaction des proches. Et donc, moi, je pouvais pas comprendre tout ça, mais je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce film qui fait que mon grand-père écrase une larme. Et du coup, bah voilà, 40 ans après, je m'en souviens encore.
Ah, Comencini, c'est magnifique. Il y a l'incompris aussi. On en parle souvent dans cette émission. Le film de votre adolescence?
Bah, c'est des films cultes d'il y a une trentaine d'années. J'en ai pris deux, alors très très différents. Usual Suspect, parce que ça a révolutionné pour l'époque les règles du thriller. Et ça a mis en lumière, j'allais dire, on a mélangé, sans spoiler pour les rares qui ne l'ont pas vu, mais
Surtout que c'est vraiment le film à ne pas spoiler.
Voilà, on mélange deux notions qui sont l'anti-héros et le méchant. Et c'est arrivé près de chez vous, parce que c'était voilà, on avait 17 ans, on faisait des nuits, c'est arrivé près de chez vous. C'est-à-dire qu'on mettait la VHS, elle se terminait, on la remettait, on la remettait.
C'est tellement génial. Voilà. Vous avez tourné avec Benoît Poulvorde dans Mystère à Saint-Tropez, dans Rien à déclarer, vous avez une... vous êtes ensemble, vous êtes ensemble.
On s'est croisés, voilà, c'est ça. On n'a pas... ça n'a jamais été le partenaire d'un film, mais on s'est croisés sur deux films, ouais.
Votre bande originale de film préférée?
Bah pareil, c'est un peu nostalgique tout ça, mais c'est Gazon Maudit, 95, parce qu'il y a toutes les chansons en espagnol, magnifiques.
Vous avez le droit de danser, hein. Je vous vois remuer.
Je sais tapas.
Je sens que la musique entre en vous.
On était déjà parti, Laurie.
C'est vrai. Jérôme Commandeur, la bande originale qui vous émeut à chaque écoute.
Alors, mais de loin, toute catégorie Cinéma Paradiso.
C'est beau.
Alors ça, S'il m'est arrivé 2-3 merdes dans la journée et que je me passe ça vers 19h et que je suis tout seul chez moi et qu'on est fin novembre et qu'il pleut, il n'y a plus personne.
C'est ça, c'est mauvais signe.
C'est mauvais signe.
Alors là, c'est un petit peu plus actuel. Si je vous demande la bande originale qui vous met de bonne humeur.
La La Land, parce que j'avais fait une petite chorégraphie avec Mart Villalonga au César.
Ce moment au César était quand même dingue. Vous aviez pris du plaisir à animer cette cérémonie ?
Énormément. Et je trouve qu'il y a un truc totalement français de dire tu vas te planter, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans ? Le public est horrible. Et en fait, les gens ne font pas ça méchamment. Mais vous prenez une espèce d'angoisse et on vous plombe. Et au bout d'un moment, quand vous êtes ratatiné, quand vous êtes déchiqueté de pourquoi tu vas faire ça, vous dites, et puis après tout, et si j'y prenais du plaisir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé.
Et c'était franchement une des meilleures éditions. C'était génial.
C'est à vous de me le dire.
Oui, mais moi je peux le dire. D'ailleurs, vous ne voulez pas le refaire ?
Des fois, on en parle.
Ouais.
Oh, parfois, on en parle. Oui, mais comme je connais exactement le... Le temps qu'il faut, c'est-à-dire 3 mois,
c'est très long.
C'est beaucoup, beaucoup de préparation. Il faut que ça coïncide avec pas de tournage.
Et là, entre septembre et janvier, vous avez des tournages ?
Vous avez un truc de prêt ? Là, ça va être compliqué. Ouais.
Bon, une autre fois. Merci beaucoup, Jérôme Commandeur. Je rappelle la sortie d'Irréductible le 29 juin. Une comédie drôle, romantique, touchante à ne pas manquer. C'est le film de ce début d'été qu'on a envie de voir. Donc, et surtout, on vous le rappelle, un générique de fin. Il faut rester jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est la surprise.
Et Laurie, je me permets, il est à cheval, la sortie du film est à cheval sur la fête du cinéma du 3 au 6 juillet.
Exactement.
Raison de plus pour y aller.
Donc profitez-en parce que pendant 4 jours, la place est à 4 euros. Donc allez voir des films, les salles sont climatisées. Et ne bougez pas dans quelques instants, on vous dit tout avec Franck Vallière et Victor Bonnefoy sur l'actualité du cinéma.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et pile à l'heure pour le journal des sorties salles, bravo. Alors aujourd'hui, un programme chargé avec 2 grosses sorties événements. L'une parle d'un chanteur, l'autre d'un ranger de l'espace. Je vous laisse deviner à qui je fais référence. On parlera aussi d'une comédie romantique et musicale et enfin d'un patron espagnol faussement sympa. Mais avant de commencer, un mot sur le box-office. Petite semaine en termes de sorties cinématographiques, donc pas de gros bouleversements. En tête du box-office, une idée, Victor,
bah, Franck ? C'est toujours les grands avions avec Top Gun. Ah non ?
Et non.
Ah non ?
Et oui.
Quoi ?
Ah
quoi ?
Mm-hmm.
Mon Dieu.
Préhistoire ?
Ah, Jurassic Park.
Oh là, putain.
Bah, ça fait du cœur, hein, Franck.
La déprime dans ce studio, quoi. Mon Dieu.
Ah, on l'aime pour son naturel et son franc-parler. Jurassic World, effectivement, toujours en tête du box-office, malgré une perte de 50% de ses fréquentations.
Bah voilà, Top Gun repasse devant la semaine prochaine.
Il y a eu la canicule, le bac, tout ça. En tout cas, près de 628 000 fans de Sensations Fortes se sont déplacés en deuxième semaine, soit un cumul de 2 millions d'entrées à peu près en 2 semaines d'exploitation. En deuxième position, Top Gun se maintient toujours au top un mois après sa sortie avec 471 870 spectateurs supplémentaires pour un cumul désormais de 3,8 millions d'entrées. Jusqu'où ira-t-il puisque la fête du cinéma se profile ?
C'est vrai !
Ça va encore continuer à grandir. Et puis en troisième place, le film de Quentin Dupieux, incroyable mais vrai. Et ça, c'est un super démarrage, c'est une belle performance, 133 330 tickets vendus en une semaine. C'est vraiment un bon score pour un Quentin Dupieux.
Ouais, tout à fait. C'est un démarrage qui est même supérieur légèrement à ce qu'il avait fait avec Mandibule. Donc ça fait super plaisir de voir Incroyable mais vrai bien marcher. C'est incroyable mais vrai.
Pas bien marcher à côté des scores des blockbusters américains, c'est quand même
très en dessous. Ça, c'est très joli.
Il faut vraiment aller voir du cinéma français aussi un peu.
Oui.
C'est pour ça, on va essayer de vous donner envie d'aller voir du cinéma français. On commence notre tour d'horizon des sorties salles avec Les goûts et les couleurs. Un film de Michel Leclerc, l'histoire d'une jeune chanteuse interprétée par Rebecca Marder qui réalise un album avec une icône des années 70, Arete Jeanne, et un personnage fictif avant qu'elle ne décède subitement. Et pour finir l'album, elle va devoir rencontrer son héritier, joué par Félix Moati.
Et vous êtes qui exactement ?
Une grande admiratrice de votre grande-tante. Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album.
Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album.
Mais vous avez pas le droit. Hein.
Bien sûr que j'ai le droit, je suis l'ayant droit même. Moi je ne connais pas en Arete Jeanne, alors que toi si.
Je ne vois que des avantages.
Que des avantages, un grand inconvénient. Devoir supporter ce qu'on a.
On va le sortir l'album, si tu veux.
On voudrait faire avec Darry Jan ce qu'Orlando a fait avec Dalida.
Je voudrais la rendre populaire, tu comprends?
Jamais de la vie, je mets mon nom sur une merde pareille.
Franck Vallière.
Ben Michel Leclerc continue un petit peu son cinéma sur le désenchantement entre deux époques qui s'entrechoquent dans le milieu de la musique, c'est-à-dire une vieillissante, celle des vinyles et des chanteuses à texte. Judith Chemla joue une espèce de Brigitte Fontaine mixée avec Serge Gainsbourg. Voilà.
Elle est grimée, elle est vieillie, elle est super.
Et donc la nouvelle ère qui est celle des DJ couillons. Artus a un petit rôle mais qui joue un DJ couillon parfait.
Très drôle.
C'est l'histoire d'une romance contrariée entre une jeune femme moderne parce que pansexuelle mais assez nostalgique puisque nostalgique de ses vieilles chanteuses à texte. Avec un placeur des marchés, Félix Moati, qui se trimballe en vêtements caporal avec sa coche bandoulière près du corps, vous voyez le genre. Et l'amour contrarié entre ces deux personnes et un coming of age pour chacun d'entre eux au final. C'est désenchanté, mais en même temps plein d'espoir. C'est le cinéma de Michel Leclerc. Peut-être pas son meilleur film, mais en tout cas, ça mérite vraiment le détour.
On en parlait en début d'émission. Elvis, le biopic sur Elvis Presley, signé Baz Luhrmann, est enfin en salle. Le film retrace la vie du chanteur à travers les yeux de son manager, le colonel Parker, joué par Tom Hanks, méconnaissable. C'est un portrait vibrant, coloré, effréné, qui n'oublie pas de montrer l'importance de la famille et le combat d'Elvis contre la ségrégation aux États-Unis. Un vrai tourbillon musical porté à merveille par Austin Butler, vraiment épatant dans le rôle du King.
Je souhaiterais être votre manager, Monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler ?
Je suis prêt. Prêt à m'envoler.
Demain, toute l'Amérique ne parlera que d'Elvis Presley.
Monsieur Presley, essayez de ne pas bouger autant pendant les prises.
Si je peux pas bouger, je peux pas chanter.
Sans moi, il n'y aurait pas de Elvis Presley.
Tom Hanks avec la voix changée.
Oui, tout à fait. Je trouve le film brillant. Je trouve que vraiment. Alors, je vais dire beaucoup de compliments sur plein de films cette semaine. Les auditeurs vont être un peu perturbés. Mais vraiment,
on va noter la date.
Exactement. Mais je suis un très grand fan du cinéma de Baz Luhrmann et c'est un peu la recommandation.
On rappelle,
que
Baz Luhrmann, Moulin Rouge.
C'est ça,
Gatsby.
Moulin Rouge, Roméo plus Juliette, Gatsby. Et donc, du coup. C'est du pur Baz Luhrmann. Si vous aimez le style de Baz Luhrmann, si vous aimez les effets kitsch, la caméra qui part dans tous les sens, il faut accepter que c'est ce genre de roller coaster-là adapté à la vie d'Elvis. Les 45 premières minutes sont à pleine balle. C'est pour moi la définition du LSD sur grand écran. Vraiment, je passe 45 minutes emporté par la musique, brinque-ballé dans mon fauteuil. J'ai l'impression d'être en 4DX alors que le siège bouge pas. C'est vraiment absolument fou et surtout, c'est servi par des comédiens de talent. Il y a beaucoup de reprises musicales comme elle le fait Baz Luhrmann et ça marche aussi très bien. Vraiment, je suis ravi de voir Baz Luhrmann revenir au cinéma quasiment 10 ans après Gatsby. Il était passé par une série télé à l'époque, mais bref.
Et Australia, mais bon, ça on le dira pas.
Non, mais c'est le film que tout le monde préfère oublier.
Avec
Australia.
Nicole Kidman.
Quel enfer. Non, vraiment, je suis extrêmement heureux de ce Elvis. Léger petit bémol, parce que vous en parliez, Laurie, en disant que on voyait le combat d'Elvis contre la ségrégation. Non, c'est pas ce chanteur blanc qui a sauvé toutes les populations afro-américaines. C'est complètement faux. Et puis, surtout, c'est complètement à côté même de ce que raconte le film, parce que le film essaierait de le faire passer pour ce Jésus-Christ blanc qui arrive en mode « Bah moi, je vais pouvoir faire du blues ». Non, il y avait B.B. King déjà à l'époque, il y avait plein d'artistes. Peut-être que le film passe un peu trop rapidement là-dessus. Le cinéaste est australien, pas américain. Donc peut-être qu'il est moins féru de ce genre de sujet-là. Il n'empêche que, allez voir Elvis en salle. Ça dure 2h30, mais c'est 2h30 de bonheur. Et en ce moment, les cinémas sont climatisés. C'est le moment d'y aller.
Et on écoute vos réactions.
J'ai très bien aimé. Enfin, je connaissais un peu la vie d'Elvis Presley. Et là, ça remet tout en situation. C'est puissant. Hein.
J'ai pas adoré. Très honnêtement, j'ai trouvé ça un peu long.
J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Moi, je connaissais pas grand-chose à la vie d'Elvis. Je connaissais juste ses chansons. Et j'ai trouvé que c'était très bien interprété. Le style visuel du réalisateur est vraiment prenant.
Les images étaient bien faites. Tom Hanks était détestable. Butler, il arrive pas à la hauteur d'Elvis. Mais vraiment, il met toute son âme dans le personnage et c'est vraiment un très beau film.
Mitigé, hein ? Mitigé, les
oui,
avis.
Mais parce que aussi, c'est un style tellement radical, tellement particulier que je peux comprendre qu'on reste en dehors. Il n'empêche que je préfère 100 fois des biopics qui ont des propositions extrêmement fortes comme celle-ci plutôt que des films qui vont vouloir rester un peu en surface.
Une autre sortie événement cette semaine, personnellement, c'est un vrai coup de cœur. C'est le nouveau Pixar, Buzz l'éclair, le plus célèbre ranger de l'espace, revient au cinéma. Il a enfin son film. Alors, on connaissait le jouet dans Toy Story, c'était le jouet préféré de Andy. Et bien maintenant, on va connaître son histoire.
Prêt, Capitaine l'éclair ?
Plus que jamais.
Vers l'infini.
Et au-delà. Journal de bord, Buzz l'éclair. Par ma faute, nous voilà tous coincés sur cette étrange planète. Je dois réparer mon erreur.
Bonjour Buzz. Je m'appelle Sox. Ma mission c'est de t'aider et je ne renonce jamais à ma mission.
Bip 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 bip. Allons-y.
Tu entends ça ?
Moi j'entends rien.
C'est clairement une violation de liberté conditionnelle.
Je suis poursuivi par le plus monstrueux des robots.
Victor ?
Ah, moi j'ai beaucoup aimé ce Buzz Lightyear. Après, je suis très client du cinéma de Pixar, surtout quand les films Pixar décident de sortir en salle et pas sur Disney+. Ça fait toujours plaisir de voir des films Pixar en salle. Pour le coup, vraiment beaucoup aimé le film parce que, au-delà de la blague et du postulat de c'est Buzz Lightyear et on va découvrir son histoire, le plus intéressant ici, c'est de voir que c'est un vrai film de science-fiction qui va convoquer à la fois le Dune de Lynch dans certaines combinaisons, qui va convoquer les facehugger, qui va, par plein d'aspects, vouloir donner du grand spectacle et du pur cinéma de science-fiction multigénérationnel. Et c'est ça qui me parle beaucoup dans ce Buzz l'éclair-là, c'est qu'au-delà de vouloir faire un Pixar qui va avoir toutes les thématiques des Pixar habituels, à savoir un personnage imbu qui va soudainement devoir avancer un peu dans sa vie, et puis même le questionnement de la passation vers des aînés, vers les nouvelles générations. C'est du pur Pixar dans le fond et dans la forme, c'est du grand spectacle de science-fiction qui questionne ses personnages 20 ans après. Je trouve ça vraiment, vraiment réussi.
Et les voix françaises sont très réussies. Chantal Latsou, Thomas Sisley, Michael.
Plein de gens qui ont craché sur la VF au moment de l'annonce, et ben je suis désolé, la VF est bonne.
Non mais attends, Buzz l'éclair, c'est Richard Darbois.
Non, alors, non. Alors,
là, c'est François Civil.
Et, alors, explication très très courte. Richard Darbois, c'était Tim Allen en VO, c'était le jouet Buzz. Ici, la question, c'est, on a le personnage Buzz de la série. Donc, ce n'est plus le jouet, c'est plus le même personnage. Mmh. Et de la même manière qu'en VO, ce n'est plus Tim Allen qui fait Buzz, c'est Chris Evans, et ben on a changé la voix de Buzz en raccord avec l'original parce que ce ne sont pas les mêmes personnages pour bien créer le distinguo. Le jouet n'est pas le personnage du film.
Ça D'accord. vous va ?
Il n'empêche qu'ils auraient pu choisir logiquement de capitaliser sur quelque chose qui relève d'une voix connue. Mais en même temps, ça, j'adore Civil et
franchement,
tout.
Franchement, la voix fonctionne et puis surtout, ça, il amène de l'émotion et de l'ampleur au personnage.
Et c'est surtout que Darbois, il a 65 ans et que le personnage en a 30. Donc il y a un truc qui n'aurait pas marché.
Mais
quoi.
Alors dans le cinéma français, on marie des mecs de 70 ans avec des jeunes de 25 et tout le monde s'en fout. Alors là,
c'est un vrai problème, Franck. C'est un vrai problème.
On écoute vos réactions.
C'était très bien. Le petit chat, parce qu'il est trop mignon.
J'ai trouvé ça assez cool. C'est marrant, il y a de l'action. Enfin, j'étais aussi enthousiaste que ma fille devant le film.
Il est très bien, le petit chat. Il était mignon, il était bien.
Le travail d'animation de 3D était remarquable.
Trop bien. C'était Buzz l'éclair. L'aventure, elle était trop bien, surtout avec le chat.
Et les garçons, pour terminer, vous vouliez parler du film El Buen Patron, une comédie avec Javier Bardem en patron ferme et paternaliste d'une grosse entreprise. Film qui a remporté 6 Goya, donc ce sont les Césars espagnols.
Oui, tout à fait, pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur scénario, et il les mérite. Là où c'est passionnant, c'est que c'est un film qui va s'attaquer au vieux paternalisme de l'entreprise avec ce patron qui se dit qu'il a à la fois droit de cuissage sur ses stagiaires et en même temps, nous sommes une grande famille, je vous traite comme mes enfants, avec un Javier Bardem qui est absolument brillant dans le rôle, et on passe assez rapidement du vaudeville au thriller. Le film arrive toujours à alterner les deux styles avec un travail sur la musique aussi que je trouve extrêmement réussi. Il y a une séquence finale qui va sûrement faire partie de mes séquences de cinéma les préférées de l'année.
Qu'aurait pu signer Ruben Östlund. C'est très Ruben Östlund la
ouais,
dernière séquence.
Bah, c'est mieux que Ruben Östlund.
Oui.
Non, je trouve ça vraiment très réussi, El Buen Patron.
Franck ?
Non, ce qui me sidère, moi, c'est la précision de Javier Bardem qui connaît De Arona depuis très longtemps et on a déjà fait plein de films ensemble. Il y a plein de Goya. Ça fait 25 ans que De Arona grafle des Goya qui sont l'équivalent des César en Espagne. Bardem vieillit, ressemble mais grave à Darmon dans Irréductible de Jérôme Commandeur, mais c'est dingue et vraiment,
c'est drôle.
Il est d'une précision mais totalement délirante face à une jeune stagiaire, bien sûr qu'il aime comme sa propre fille, sauf qu'il va bien sûr essayer de l'attraper.
C'est la comédienne du film Abuela,
voilà.
Incroyable.
Et qui a quelque chose à jouer pour une fois au lieu de la Scream Queen de base, et ça vraiment c'est très très réussi.
Merci à tous les deux, c'est déjà la fin de ce clap. Aujourd'hui, vous venez de citer Franck Irréductible. Je recevais Jérôme Commandeur pour son film Irréductible qui sera en salle la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. À la semaine prochaine sur Europe 1.